Salut Philippe.
Salut Patrick.
Philippe, écoute, il y a une nouvelle non sportive qui secoue aujourd'hui la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a deux joueurs d'éthique de Victoriaville qui sont accusés d'agression sexuelle, présumément commise là, en juin dernier dans un hôtel de la région de Québec. Les deux joueurs accusés auraient même enregistré les faits reprochés. Est-ce que ces joueurs-là peuvent rester dans l'alignement d'éthique?
Je pense que dans le contexte actuel, c'est impossible d'imaginer ce scénario-là, Patrick, le compte tenu de tout ce qui se dit depuis maintenant plusieurs mois, deux ans peut-être là, autour du mouvement MeToo pour condamner les agressions sexuelles. Écoute, c'est une décision qui tombe sur le sens pour la Ligue junior majeure du Québec de dire, ben écoutez, oui, vous avez le droit à la présomption d'innocence, comme toute personne qui est accusée, mais d'un autre côté, en attendant le processus, vous ne pourrez pas jouer dans la Ligue. Et tu sais qu'aujourd'hui, la ministre Isabelle Charest, là, qui est responsable du dossier sportif au gouvernement Legault, a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi la Ligue n'avait pas déjà agi. Parce qu'un petit peu plus tôt aujourd'hui, la Ligue junior majeure du Québec a émis un communiqué en disant, écoutez, on est au courant de du dossier, bien sûr, on est en train d'analyser tout ça et on va rendre notre décision sur l'éligibilité ou non de ces deux joueurs-là d'ici 48 heures. Et là, la ministre, aujourd'hui, en point de presse, là, c'est sur tous les sites de nouvelles, dit... Écoutez, c'est incompréhensible que ça prenne 48 heures. C'est une décision qui est assez simple à prendre. Alors, la pression politique est également sur la Ligue junior majeure du Québec.
Philippe, c'est-tu ce que je trouve étonnant dans cette affaire-là? C'est que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a d'abord une enquête criminelle. Là. Ça a été médiatisé, c'est su. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où les accusations tombent, là, la Ligue dise, ah, écoutez, on va se donner deux jours. Si la Ligue avait été prise de court, tu sais, la nouvelle sort, on n'en a pas entendu parler. Je comprends que tu te donnes peut-être un pas de recul. Là, ça fait des semaines et des mois qu'on sait que c'est possible que ça s'en vienne et il n'y a pas de plan qui est prêt à être mis en action.
Ouais, et ça c'est quand même, c'est assez renversant, comme tu le dis, là. La Ligue aurait dû se prévoir ça et être capable de réagir sur le coup. Et c'est en plein ce que dit la ministre Charest, là. D'ailleurs, aujourd'hui, elle dit, il me semble qu'un petit peu de travail en amont pour se préparer à ça aujourd'hui, ça aurait été la moindre des choses. Or, la Ligue junior majeure ne l'a pas fait.
OK, revenons au sport. Les sénateurs d'Ottawa, on sait, ont de la misère et c'est pas juste sur la glace qu'ils sont bons pour tirer dans leur propre filet.
Non, c'est ça, parce qu'ils ont un joueur extraordinaire, Patrick, les sénateurs d'Ottawa, Brady Tkachuk, un colosse, quatrième choix au repêchage l'année où Jesperi Kotkaniemi a été choisi par le Canadien juste avant, Kotkaniemi troisième, Tkachuk quatrième. Et là, il n'y a pas de contrat, Tkachuk, alors il s'est pas présenté au camp d'entraînement, il est parfaitement dans son droit, il n'est pas sous contrat, c'est pas qu'il fait pas la grève, il n'y a pas de contrat, donc il va pas jouer. Les sénateurs ont toujours dit, il n'y aura pas de problème pour mettre Tkachuk sous contrat, on le pressent... déjà comme le futur capitaine de l'équipe, le gars autour de qui tout ce club-là va s'articuler. Puis, tu sais, c'est une équipe avec un potentiel extraordinaire, les sénateurs, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs de premier plan. Tu sais, si tout ce monde-là tire dans la même direction, ils pourraient devenir très vite une excellente équipe dans la Ligue nationale. Mais là, ça part mal, parce que l'année où tu penses que t'es enfin dans la bonne direction, qu'enfin tu vas peut-être combler les attentes qui sont placées en toi, t'as une chicane avec ton meilleur joueur autour du contrat. Là, les sénateurs disent, semble-t-il, selon les informations qui circulent, les sénateurs voudraient lui donner un contrat à long terme de 8 ans en disant, écoute, nous, on est prêt à faire un investissement important avec toi, mais on veut que tu restes avec nous longtemps. Puis lui, il voit plutôt un contrat à plus court terme, ce qui lui permettrait éventuellement peut-être de devenir joueur autonome, puis tu sais, changer d'équipe, ça va pas bien à Ottawa. Mais au bout du compte, Patrick, dans ce type d'affaires-là, il y a une grande règle. Les joueurs ne perdent jamais. Ils ne perdent pas, les joueurs. Ils finissent toujours par gagner. Tu sais, puis je vais donner un exemple qui va rappeler des souvenirs à tous nos auditeurs. Quand Marc Bergevin est devenu directeur général du Canadien en 2012, un des premiers dossiers qu'il a eu à affronter, c'est le futur contrat de Piqué Subban. Mm-hmm. Et Bergevin voulait lui donner un contrat de 2 ans. Il voulait faire ce qu'on appelle un contrat pont. Il voulait pas lui donner tout de suite le pactole avec un contrat de 6 ou 7 ans. Il a tenu son bout. Subban a raté les premiers matchs de la saison. Au bout du compte, le Canadien a gagné. Subban, là, il a accepté le contrat pont. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Le Canadien a payé beaucoup plus cher qu'il voulait pour lui donner un contrat à long terme. Alors que s'il avait donné le contrat en partant, probablement qu'il aurait payé pas mal moins cher sur le nombre d'années. Alors, tu sais, les joueurs, s'ils sont bons puis s'ils remplissent les attentes placées en eux, ils finissent toujours par gagner. Et que les sénateurs d'Ottawa ne comprennent pas ça à l'heure actuelle, moi, j'en reviens pas.
Mais Philippe, je vais ajouter quelque chose. Disons que c'était le Lightning de Tampa Bay, là, ouais. qui est fort à toutes les positions, qui a des super joueurs. Tu te dis, bah, regarde, c'est une question de principe ou d'équilibre de la masse salariale. Garde, on va avoir une chicane avec un joueur. S'il n'est pas content, tant pis. À Ottawa, à part Brady Tkachuk, là, le banc n'est pas très, très profond.
Non, non. Tu as des bons jeunes, comme je te disais. Tu as Thomas Chabot à la
oui,
défensive, tu en as d'autres.
Mais on se comprend, là.
Exactement. On se comprend. Et puis, en plus, tu es en train de dire à tes fans, là, qui sont pas nombreux, là, il y a eu bien des sièges vides à Ottawa, et là, je parle d'avant la pandémie, tu sais, t'es en train de dire, hey, là, on l'a, l'équipe. Cette année, là, on va faire du bruit dans la Ligue nationale, puis tu commences ta saison comme ça. Et ce qui est triste, là, c'est que ces affaires-là, ça laisse tout le temps des traces dans les relations entre les deux parties. Si Tkachuk avait simplement raté le début du camp d'entraînement, 4-5 premiers jours, ça aurait été une chose bien différente. Mais là, la saison commence dans une semaine, il est toujours pas sous contrat, il va rester quelque chose de néfaste dans les relations entre les deux parties, et ça reste, c'est toujours là, c'est toujours présent, et c'est pas bon pour une équipe. Je reviens encore avec le dossier de Subban. À l'époque, le Canadien avait pas été tellement content d'être obligé de donner un contrat à long terme à Subban, puis regarde, bon, pour cette raison-là, pour d'autres aussi, c'est resté dans l'air. Alors, je trouve que les sénateurs sont en train de vraiment se diriger dans une pente très, très, très hasardeuse.
Bon, mets-nous l'eau à la bouche pour un classique du baseball qui va avoir lieu ce soir.
J'imagine que tu vas écouter ça, Patrick.
Ben, écoute, je vais essayer.
Red Sox Yankees. Hey, écoute, là, Canadien Nordique, c'est la même chose, c'est la même ambiance, une rivalité historique. Un seul match pour déterminer qui va poursuivre en séries éliminatoires. Je trouve que la fin de saison du baseball majeur, je sais que tu as eu l'occasion d'en parler avec Philo une couple de fois là, dans l'émission. Et il a raison. C'est vrai que cette année, c'est extraordinaire. Moi, je me suis réconcilié avec le baseball depuis 2-3 ans, là, après le départ des Expos, là, parce que pendant longtemps, je l'ai moins suivi. Mais cette année, plus que jamais, c'est vraiment une saison formidable. Et là, ce soir, Red Sox-Yankees, ça s'annonce extraordinaire.
Bon match. On se retrouve demain, Philippe.
OK, salut, Pat.
OK, avant de passer à la pause, vous dire que dans quelques instants, dans quelques minutes, on va revenir sur le décès de l'humoriste Pierre Légaré à l'âge de 72 ans. Catherine, on peut dire qu'il a quand même défié les pronostics. Ça faisait longtemps que Pierre Légaré avait reçu, disons, de très mauvaises nouvelles côté santé.
Oui, ça faisait à peu près 15 ans qu'il s'était retiré de l'aspect public du métier. On dit qu'il participait à différentes œuvres caritatives, pardon, dans le coin de Saint-Jean. Et il a marqué le milieu de l'humour très, très fort. C'était un style d'humour absolument unique. Et aujourd'hui, il y a foule de témoignages d'humoristes qui se rappellent à quel point il était formidable.
Et ce sont autant de témoignages très, très mérités. Dans 15 minutes, on va parler avec la fille de Pierre Légaré, Manuel, qui va témoigner, disons, du côté peut-être un peu plus personnel, intime de ce monument de l'humour québécois qui vient de décéder. Au retour, on va parler de Facebook.